Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Je vous parle cette semaine depuis VivaTech. VivaTech, c'est un salon international de la technologie qui se déroule à Paris. Chaque année, pendant 3 jours, il réunit jeunes pousses et géants de la tech. Parmi les intervenants, des noms connus comme le patron de Facebook Mark Zuckerberg ou le directeur général de Microsoft Satya Nadella. Il y en a d'autres qui sont en train de se faire un nom, comme notre déjà prestigieux invité d'aujourd'hui. J'ai nommé Éric Léandri, fondateur du moteur de recherche Quant. Je le recevrai tout à l'heure, mais avant cela, je suis sorti de cet immense hall de la porte de Versailles pour essayer de discuter au calme, tant que faire se peut, avec un entrepreneur nommé Tongje Bakang.
Bonjour, je m'appelle Tongje Bakang, je suis un entrepreneur français, mais surtout globetrotter.
Tongje Bakang, vous êtes actuellement directeur au sein de The Family, qui est un incubateur de start-up qui dispose de bureaux à Paris, à Londres, à Berlin. Avant cela, vous aviez lancé un site de streaming vidéo qui s'appelait AfroStream. On va y revenir. Alors, vous êtes né à Paris en 1980, mais vos parents sont de la diaspora camerounaise. Et cette année encore, VivaTech met l'accent sur l'Afrique, avec plus d'une centaine de start-up africaines présentes. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
C'est plutôt une bonne chose que la France et notamment VivaTech mettent en avant un marché porteur, le marché africain. Il reste encore beaucoup de travail et d'investissement à faire avant que on puisse vraiment bénéficier des fruits de ce travail et ce dur labeur, mais cette mise en avant est plutôt positive. Je pense qu'il y a un vrai lien culturel et historique entre la France et certains pays d'Afrique. Et aujourd'hui, le fait que des entrepreneurs africains puissent exposer leurs innovations, des innovations qui potentiellement pourraient déboucher sur du business en Europe, est plutôt impressionnant. Et le fait que des investisseurs et des entrepreneurs européens se lancent en Afrique est, je pense, un bon échange de valeurs et d'innovation.
Vous êtes un entrepreneur né, je crois que vos premières productions, parce que vous avez fait de la production auparavant, notamment audiovisuelle, c'était dès l'âge de 16 ans. D'où est-ce que ça vous est venu, cette envie de créer ?
Cette envie de créer est venue d'un manque d'accès à des opportunités. Mes parents, mon père était médecin, ma mère infirmière, donc rien à voir avec l'univers de l'entrepreneuriat et des médias. Dans mon réseau d'un quartier plutôt populaire de la rue de Charonne à l'époque, dans les années 80, je n'avais personne qui travaillait dans les médias, donc j'ai dû moi-même créer mes opportunités, à la fois pour développer un savoir-faire de storytelling et de captation de l'image, de montage et ces choses-là. Et aussi, devenir le porte-parole, finalement, de mon premier cercle et partager nos histoires, partager notre vécu, partager notre point de vue sur le monde. Ça, peu de gens pouvaient le faire pour moi. Donc, j'ai essayé de le faire pour moi-même et pour les miens.
Donc, ça voulait dire savoir s'entourer et chercher des talents aussi.
C'était exactement être capable de créer un réseau très rapidement. Je savais que une chose qui est importante dans les médias, c'est son réseau, son network, comme on dit. Et c'est la chose la plus dure à acquérir. Donc c'est ce pourquoi, à un jeune âge, j'ai décidé de faire des stages durant l'été. Je me rappelle, j'étais dans un lycée qui s'appelle l'École Alsacienne à Paris. Et je manquais quelquefois les cours parce que j'allais travailler sur des tournages de clips de rap. C'était les années 96-97, donc le début du hip-hop, l'émergence du hip-hop français, l'époque de Time Bomb, le début de Kno Puccino et Booba. Et moi, j'étais dans les studios. Je me rappelle, j'allais à Ivry-sur-Seine dans un hôpital qui s'appelle Charles Foix. C'est là où était la radio Génération à l'époque, qui n'émettait que le week-end ou tard le soir, et moi après les cours j'allais juste assister et me faire du réseau. Donc très tôt je me suis pris en main et j'ai privilégié l'humain, le réseau, et j'ai eu comme ça des mentors qui m'ont appris le métier.
Et je le disais tout à l'heure, en 2015 vous avez fondé AfroStream, on l'a alors présenté comme le Netflix africain, mais il n'a duré que 2 ans. Avec le recul, comment est-ce que vous résumeriez cette aventure ?
Alors déjà, je dirais que l'aventure n'a pas commencé en 2015, elle a commencé en 2013. Et ça m'a pris à peu près 2 ans pour passer d'un d'un mindset 100% média, un mindset plutôt tech. Donc je me suis formé, ça a été ma première rencontre avec cette organisation qui s'appelle The Family, qui m'a donné accès à beaucoup d'éducation autour de la tech. J'avais tous les samedis, j'avais des workshops sur les levées de fonds, sur la conception d'un produit. J'ai lu beaucoup de livres sur l'univers de la tech. Je me suis expatrié quelques mois aux États-Unis pour finalement me plonger dans la Silicon Valley et comprendre justement le potentiel que pouvait avoir la tech dans ma vie. Et ensuite j'ai créé une communauté autour de cette idée qui est AfroStream. Et c'est que bien plus tard, donc en 2015, après avoir une communauté de plus de 60 000 personnes, m'être formé, avoir rencontré des investisseurs français, que j'ai eu la chance d'être sélectionné dans le plus gros incubateur du monde qui s'appelle Y Combinator dans la Silicon Valley. Et à travers une expérience incroyable de 4 mois au cœur de la tech mondiale, que j'ai pu lever de l'argent et lancer en 2015 mon service. Mais quand on a l'impression qu'il y a eu toute une vie avant le lancement officiel dont on vous parlait en 2015, mais c'est pas suffisant pour créer un succès. Et nous avons eu 2 années formidables d'activité chez AfroStream. Quand je dis d'activité, c'est à partir du moment où le service a été lancé au public, mais nous avons fait face à plusieurs challenges. Le premier, c'est que un média n'est jamais rentable avant les 5 premières années. Et peut-être que la façon dont nos investisseurs voyaient notre business model, ils n'avaient pas forcément conscience de toutes ces difficultés, parce que la plupart d'entre eux n'avaient pas forcément une vision très média. Ils avaient plutôt une vision tech avec un retour sur investissement à un plus court terme. Peut-être que moi, en tant que dirigeant, je n'ai pas fait un bon travail d'éducation de mes investisseurs pour bien leur faire comprendre dans quelle figure nous étions. Et il y a aussi plein de choses là. On visait un public issu de la diaspora en Europe, donc il y avait accès à des paiements en ligne, qui avait accès à un internet à un prix raisonnable et aussi un haut débit. Notre ambition était vraiment de nous développer sur le continent africain. Nous avons d'ailleurs lancé AfroStream dans 28 pays, mais l'audience que nous cherchions à atteindre n'avait pas forcément accès à tous les moyens de paiement, n'avait pas forcément accès à une connexion satisfaisante pour profiter du service.
C'était trop tôt ?
C'est tôt, oui, c'était tôt. Est-ce que c'est trop tôt ? On ne sait jamais, parce qu'il faut finalement plusieurs acteurs sur un marché, plusieurs essais pour arriver finalement à créer toutes les conditions pour qu'un jour ce type de service se développe. Donc je pense que la contribution d'AfroStream a finalement une grande valeur sur le marché africain. Beaucoup de jeunes Africains, à la fois des spectateurs, des créateurs de contenu, ont grâce à AfroStream découvert de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités. Je pense que ça a été très important. Le fait qu'AfroStream est fermé, et j'ai aussi partagé dans un long blog post les raisons de cette fermeture, a permis aussi d'éduquer une partie de l'industrie sur les challenges auxquels il fallait faire face quand on vise le marché africain. Donc je pense que c'était nécessaire. Certains de nos investisseurs ont beaucoup appris aussi de cet investissement. Il y a eu des pertes, mais il y a énormément d'enseignements, de valeurs créées.
Et revenons-y justement au continent africain, où les startups sont en pleine expansion, on le dit depuis plusieurs années, notamment en matière de téléphonie mobile, de services financiers. Quels sont les pays où ça bouge et où vous observez avec le plus d'intérêt ?
Alors, contrairement à beaucoup de francophones, je voyage énormément dans les pays anglophones d'Afrique. Dit anglophone. Donc je passe énormément de temps au Nigeria, je passe énormément de temps au Ghana, en Afrique du Sud. Je suis allé l'année dernière 2 fois en Égypte. Donc c'est pas un pays anglophone, mais c'est un gros marché. Et pour moi, ces marchés-là sont les plus gros marchés où il y a un dynamisme vraiment très impressionnant. une soif d'entreprendre. Et au-delà de la soif d'entreprendre, il y a vraiment un marché porteur. Je prends l'exemple de l'Égypte, où un abonnement téléphonique de 10 gigabytes coûte moins de 3 euros. Donc, et avec de la 4G. Donc c'est vraiment impressionnant.
Ils vont avoir la 5G aussi bientôt.
Oui, ils vont avoir la 5G bientôt. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre d'incubateurs, de start-up. Il y a un écosystème qui est assez dense. Et c'est un marché énorme, très jeune. Donc ce marché est impressionnant. Nigeria est aussi très intéressant, même s'il y a des problèmes d'infrastructure. Et ensuite, pour les pays d'Afrique francophone, alors il se passe plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est la capacité de créer un marché commun. Pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se développer plus rapidement, parce que il y a encore, et ce qui est normal, les galères administratives quand on est une entreprise à Dakar et quand on veut finalement s'exporter à Abidjan, ce n'est pas si simple que ça. Donc j'espère vraiment que les différentes autorités vont faciliter comme ça ce marché commun de pays francophones.
Donc en fait, il faut que l'écosystème soit plus mature en termes de financement, en termes de partenariat à la fois entre les pays et également entre les continents, c'est ça ?
Tout à fait. Et je pense aussi qu'il faut que les entrepreneurs et les investisseurs aient vraiment conscience d'où est la vraie opportunité à court terme. Et la vraie opportunité est moins dans ce qu'on appelle du B2C, des entreprises qui visent des individus comme vous et comme moi, mais plus dans des entreprises qui vont viser des PME et autres entreprises qui ont peut-être plus conscience de leurs besoins et qui seront prêtes à finalement payer pour des solutions.
Vous êtes également acteur en faveur des jeunes entrepreneurs, notamment via le prix Anzisha. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, le prix Anzisha, c'est un prix formidable qui a été créé par une école en Afrique du Sud qui s'appelle l'African Leadership Academy, en partenariat avec la fondation Mastercard. Et le but, c'était de réduire le gap dans le financement des entrepreneurs et aider les jeunes entrepreneurs qui ont entre 16 et 22 ans. Donc ces très jeunes entrepreneurs ont finalement très peu accès au capital. Les adultes ne leur donnent pas une grande confiance quand ils veulent lancer leur entreprise. Donc on s'est dit, faisons ensemble un support système pour les accompagner et faisons le pari du long terme, parce que les grands entrepreneurs africains comme Dangote ont commencé très jeunes. Donc comment faire en sorte d'accompagner des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, la manufacture, la tech, healthcare, à un très jeune âge. L'Afrique est jeune. Une chose aussi que nous avons remarqué depuis 5 ans que nous soutenons cette initiative, c'est que des jeunes entrepreneurs ont tendance à employer des jeunes de leur âge. Et pour nous, la mission, c'est se dire comment on crée un cercle vertueux autour de l'emploi des jeunes, qui est finalement l'une des questions majeures que l'Afrique doit résoudre.
Quels sont vos projets actuellement ou ceux que vous avez envie de lancer dans les mois et les années qui viennent ?
Ce que je peux dire, sans trahir de secret, c'est que l'aventure AfroStream était formidable parce que la première étape était de distribuer en ligne du contenu pour ensuite produire du contenu original. Et aujourd'hui, alors que j'ai toujours un pied dans la tech en étant partenaire à The Family, en investissant énormément dans des boîtes françaises, nigériennes et américaines, je reviens à mes premiers amours de production. Et dans, j'espère, quelques semaines, je pourrai annoncer des choses intéressantes au niveau de la production du visuel.
Et si on veut vous contacter, comment faire ?
Alors, c'est très simple, je suis sur Twitter, Instagram, Tanje Bakang, et je réponds quand les sollicitations sont intéressantes.
Merci Tanje Bakang, à bientôt.
Merci à vous.
Atelier@rfi.fr
Avant de poursuivre, une information en bref qui est un petit peu notre fil rouge de ces dernières semaines. Deux journalistes français du média d'investigation à but non lucratif Disclose.ngo ont été entendus mardi au siège de la DGSI. Geoffrey Livolzi et Mathias Destal étaient convoqués par les services de renseignement français suite à la publication d'une enquête sur l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. En sortant, les deux journalistes ont dénoncé le cadre procédural de leur audition et regretté une tentative d'intimidation. 17 ONG y ont également vu une atteinte à la liberté de la presse. C'est maintenant l'heure de recevoir notre invité, Éric Léandri.
RFI.
Bonjour Éric Léandri.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur du moteur de recherche français Quant. La promesse de Quant, c'est, je cite, « le moteur de recherche qui respecte votre vie privée ». On y reviendra. Tout d'abord, ma première question, c'est qu'est-ce qu'est venu annoncer Quant à ce salon Viva Technologie ?
Plusieurs choses. D'abord, on vient tous les ans à Viva Technologie depuis le début et c'est de plus en plus complet, de plus en plus plein. Donc il y a vraiment beaucoup de monde à qui nous devons expliquer ce que nous avons fait chez Quant. Et là, Quant a plusieurs choses. Quant Junior pour les enfants, ça on l'avait déjà, mais il y a la version qui arrive. School.quant.com, c'est-à-dire la version pour les 13 ans, 18 ans. Quant Junior, c'est 6-12 ans. Là, on fait la suite. C'est le seul moteur de recherche sécurisé pour l'école où vous allez avoir tout trouvé, mais évidemment pas de contenu violent et pas de contenu pour adultes. Et puis, dans la foulée, vous avez Quant lui-même qui est en train de s'améliorer avec Quant Maps qui arrive, donc la carte de Quant qui marche aussi bien sur l'Europe que sur l'Afrique que sur le monde en partenariat avec OpenStreetMap. Et puis, dans la foulée, on est en train d'annoncer Quant Cause. Quant Cause, c'est la possibilité de reverser. Vous activez Cause et vous allez pouvoir reverser aux fondations qui font des choses sur toute la planète, mais aussi à toutes les associations d'utilité publique.
On va y revenir. Mais cette semaine à Paris, il y a eu le sommet Tech for Good et dans la foulée, l'appel de Christchurch, une déclaration d'intention de lutter contre les contenus haineux en ligne. Parmi les premiers soutiens, il y avait des politiques, des présidents, notamment Emmanuel Macron. Il y avait également le président sénégalais Macky Sall. Et on retrouve des entreprises, dont les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Microsoft, Google, Amazon et également Quant. On vous retrouve associé en fait à des entreprises dont vous dénoncez le fonctionnement et l'utilisation des données personnelles.
Alors là, vous venez d'en citer plusieurs. Ils ne sont pas tous partis à faire la même chose. Ils ont l'air tous de prendre des chemins divergents. Moi, j'entends même des gens de chez GG, moi j'appelle comme ça, qui se mettent à parler privacy, donc sécurité des données. Bon, qu'on soit clair. On est tous autour de la table sur un sujet qui rassemble quand même tout le monde. Je crois que personne autour de la table n'a plus envie de voir des images pareilles être diffusées dans le monde entier. Ça a choqué tout le monde. Ça les a choqués autant que nous, autant que d'autres. Ce sont tous des humains. Donc, autour de la table, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions.
Là, vous parlez des images qui étaient diffusées en direct sur Facebook du massacre de Christchurch.
C'est exactement ça.
Alors en France, en mars 2019, Google représentait plus de 94% des parts de marché des moteurs de recherche. Bing de Microsoft, 3%. Et Quant était derrière à 0,66%.
Il faut arrêter d'utiliser StatCounter. Hein. C'est rigolo ça.
Mais ça donne en tout cas un ordre d'idée. Et là, on se rend compte que Quant est face à un géant. C'est David contre Goliath. Et vous jouez la carte de la protection de la vie privée, notamment en développant vos propres outils et vos propres algorithmes pour être indépendant. C'est ça qui est très important déjà ?
Ça c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir un moteur de recherche souverain européen qu'on pourra ensuite amener sur l'Afrique, amener sur l'Inde, amener sur d'autres pays de façon propre en respectant les utilisateurs où qu'ils soient dans le monde, en les considérant comme des citoyens. C'est vraiment très important, c'est reprendre la main déjà sur des choses qui sont là, qui sont de tous les jours. Et puis, derrière, il y a autre chose. Il y a le fait de pouvoir faire de l'intelligence artificielle en Europe, il faut de la data, il faut beaucoup de data. Le fait de pouvoir faire tout un tas de choses en protégeant les citoyens, en protégeant les villes, en protégeant les régions, en protégeant nos data, et surtout en protégeant le secret des affaires. Aujourd'hui, vous avez des groupes comme BNP qui viennent d'annoncer passer 110 000 personnes sur Quant aujourd'hui. Vous avez la Caisse d'épargne qui a passé 60 000 personnes sur Quant. Vous avez Crédit Agricole, vous avez Thales, vous avez Safran. C'est des centaines de milliers de personnes qui ont Quant par défaut au démarrage de leur ordinateur.
Et donc c'est ça une des pistes de développement pour vous, c'est de faire des partenariats pour que des gens soient forcés, entre guillemets, par leurs entreprises à utiliser Quant ?
Nous, on ne force pas, hein. Ça c'est chez le voisin. Donc le voisin, il essaie de faire tout le temps que vous soyez coincé, vous ouvrez votre navigateur, vous avez GG par défaut.
Vous avez Chrome,
parce
par
qu'il
exemple.
A payé, vous ouvrez Chrome, c'est à lui, vous ouvrez Firefox, il a payé 350 millions, vous ouvrez Safari, il a payé 12 milliards pour être là par défaut. Nous, c'est l'inverse. On est installé, mais si vous voulez retourner chez le voisin, la compétition n'est qu'à un clic, vous tapez GG dans Quant, et puis vous pouvez réinstaller Google, il n'y a pas de problème. Donc nous, ce qu'on veut simplement, c'est que ça soit facile le matin d'être sur Quant. Parce que dans les entreprises, jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que vous installez Firefox, vous arrivez, vous avez Google. Personne n'a commandé Google, hein. Il est livré avec le navigateur. Donc là, on met Quant, vous pouvez changer, comme sur Google, vous pouvez changer sur Quant. Le problème, c'est que passer sur Chrome de Google à Quant, c'est très compliqué. Alors que passer de Quant à Google, c'est très facile. Donc on préfère que les gens basculent. Et pour finir, on garde 80% des utilisateurs qui nous ont essayé.
Et les utilisateurs, la protection de leurs données personnelles, on a l'impression que pour certains, eh bien, ce n'est pas si important que ça, puisqu'il y a encore énormément de monde qui est sur Facebook. 2 milliards de personnes continuent à utiliser Facebook. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un petit peu de lutter et d'être face à un océan ?
Ouais, wow. Alors, la protection des données personnelles, on peut toujours en parler. La protection du secret des affaires, je peux vous dire que les boîtes qui ont décidé de plonger avec nous comprennent très bien pourquoi elles le font. La protection des données de l'État, la protection d'un ministère de Bercy, par exemple, qui cherche pour mettre un peu de taxes à des géants qui ne payent pas d'impôts, c'est mieux de chercher chez nous que chez eux. Voilà, ça, c'est le genre de protection qu'on amène. Mais juste un petit truc pour vous et moi. Quand vous faites une recherche d'avion, quand vous faites une recherche d'hôtel, ou quand vous faites une recherche de choses comme ça sur un moteur de recherche, chez nous, on ne revend pas vos données. Donc, on vous donne toujours le prix le plus bas. Chez les autres, ils revendent vos données, donc les prix changent, les prix montent. Et puis quand vous cherchez une région ou un hôtel, comme de par hasard, ils sont pleins le soir où vous voulez y aller. Même pas avec nous. Donc en fait, on vous protège aussi votre porte-monnaie. Hein. Commencez à réfléchir deux fois quand vous vous dites, tiens, c'est pas grave ma vie privée, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils savent de vous, ça permet de vous vendre plus cher, ce qu'on vous vendra moins cher sur Quant.
Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure de Quant Cause, Quant Causes, une extension qui permet à l'utilisateur d'accepter un petit peu plus de publicité sur Quant pour reverser les bénéfices générés par ces publicités à une association de son choix. Vous développez ça avec Hello Asso. C'est important justement d'avoir un web éthique, c'est ce que vous vendez ?
Bah, de toute façon, depuis le début, on a commencé Quant sur le respect de la vie privée. C'est l'article 12 des droits de l'homme, hein, le droit à la vie privée. Donc oui, on a toujours voulu être éthique. Nous avons de l'énergie verte chez AQO, donc on a toujours voulu être green. Et puis dans la foulée, Quant Causes, l'idée c'est vous choisissez votre association. Vous allez avoir celle du mois, celle qu'on a prévue pour vous. Ça commence par la cause des femmes, avec tout un tas d'associations pour les femmes à qui nous allons reverser au travers de CARE. Et puis vous avez des partenariats avec Hello Asso pour des associations d'intérêt généraux. Et puis, vous avez des fondations, des très grosses fondations, là, en direct, comme Acted, comme CARE, comme d'autres. Vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir les prendre parce que vous les aimez, parce que vous les soutenez. Vous allez pouvoir les ajouter. Et quand vous allez utiliser votre moteur de recherche, vous allez faire de l'argent en cliquant sur la publicité. Et on reversera la publicité supplémentaire à ces associations tous les mois.
Alors, chers auditeurs, vous écoutez l'atelier des médias sur RFI. On parle beaucoup des médias, du journalisme. Éric Léandry de Quant, il y a quelques semaines, vous disiez aux éditeurs de presse français « Envoyez-moi vos relevés d'identité bancaire, je vais vous rémunérer ouais. ». Combien l'ont fait ? Où en est-on ?
Alors, il y en a une douzaine qui l'ont fait. Les 12, dès demain, on va envoyer les factures pour leur demander l'appel à facturation et on va les régler. Et le premier qui l'a fait, c'est le point. RFI, je crois pas. Je vais vérifier avec France 24. Donc, résultat de l'histoire, on le démarre. Et nous, c'est 5% du chiffre d'affaires qui va être versé aux éditeurs.
Ça donc, représente chez nous, combien ?
Bah, ça fera 1 million ou 2 millions très vite. Et puis après, ça montera. Chez le voisin, s'il fait la même chose que moi, c'est 200 millions cette année qu'il devrait vous donner.
Donc, ce serait énorme et ça leur ferait mal au porte-monnaie ?
Mais non, ça leur ferait pas mal au porte-monnaie. Ils font 3,5 milliards, ils ne payent pas d'impôts. S'ils payaient les impôts, ils mettraient 1 milliard par an ici. Donc, ça ne fera pas mal au porte-monnaie. La seule chose que ça pourrait faire, c'est laisser la presse libre et indépendante. Ça, ça me ferait très plaisir.
Vous en avez également parlé tout à l'heure. Quant Maps, donc un outil de cartographie, de géolocalisation. C'est important de développer ces différents outils. Et en fait, vous faites comme le voisin, non, d'une certaine façon.
Oui, en fait, non, parce qu'on fait beaucoup de choses en partenariat. Mais donc, on va faire du mail en partenariat, on fait de la carte avec OpenStreetMap, donc on contribue aussi à OpenStreetMap. On met en place des systèmes qui permettent tout simplement de vous protéger quand vous naviguez sur le web. Moi, je vous protège sur les recherches, mais après, si vous passez à la navigation ou à la map et que vous retombez chez le voisin, ben, vous allez lui donner les informations de là où vous allez et ce que vous êtes en train de rechercher encore. Donc on essaie de vous amener les outils qui vous permettent d'être tranquille sur Internet, d'avoir le droit à la vie privée, et puis ensuite des partenariats avec plein de gens pour garantir que vous puissiez avoir un cloud privé avec Cozy Cloud, garantir que vous puissiez avoir un réseau social avec Waller, garantir que vous puissiez avoir du mail avec NetCourrier et d'autres qui sont des partenaires importants pour nous.
Quant au modèle économique de Quant, est-ce que vous êtes en train d'essayer de le diversifier ? Parce que, à ma connaissance, vous êtes financé par la Caisse des dépôts, par la Banque publique d'investissement, par le groupe Axel Springer. Voilà. Alors, tout cela, ça coûte beaucoup d'argent.
Oui, on est financé par la Caisse des dépôts, par le groupe Axel Springer et par la Banque européenne d'investissement. Et c'est vrai que ça a coûté de l'argent, ça va encore en coûter, mais ça en rapporte. Donc, on a la partie B2C, là où on gagne de l'argent. C'est très simple, hein, vous tapez... le nom d'une tablette sur Quant, on vous affiche du shopping, vous cliquez sur la tablette que vous voyez affichée, ça va à la Fnac, ça fait un nouveau client pour la Fnac et la Fnac nous rémunère. Hein. C'est vraiment très simple. C'était le business model de Google avant 2004. Il faisait 40 milliards de chiffre d'affaires, il avait 100 milliards à la bourse. Tant qu'il ne vendait pas vos données, il fait 50 euros par an et par utilisateur, nous on fait 12 euros. Donc c'est déjà très bien. Et à côté de ça, on a une branche B2B, donc on est en train de répondre dans les régions.
Donc
dans
des
les...
entreprises aux entreprises.
Exactement.
Et des entreprises aux institutionnels.
Exactement.
Par
et par exemple, nous répondons dans les régions avec des grandes entreprises comme Eiffage sur un appel d'offres en Bretagne pour tout simplement mettre le moteur de recherche au cœur de vos villes, le moteur de recherche au cœur de l'IoT, de l'Internet des objets, pour savoir où est le métro, où sont les infos, quelle est la qualité de l'air. On fait ce genre de choses et on va aussi partir vers l'Afrique et d'autres continents pour proposer tout simplement l'index des pays, donc l'index de l'Afrique, l'index du Sénégal, l'index de la Côte d'Ivoire par pays, au pays. Et puis la possibilité d'avoir Quant Junior pour les enfants, pour les pays.
Parlons un petit peu de la dimension politique de tout ça. Emmanuel Macron et le gouvernement français soutiennent-ils suffisamment Quant ?
Écoutez, le gouvernement français, Emmanuel Macron, et la politique aujourd'hui de soutien aux startups, vous la voyez. On est à Vivatech, il s'est exprimé aujourd'hui jeudi. Vous savez comme moi que le gouvernement aujourd'hui pousse pour qu'on fasse des startups, mais aussi qu'on fasse des scale-up. Donc qu'on commence à avoir des sociétés qui commencent à lever des dizaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros afin de pouvoir concurrencer maintenant au niveau mondial l'ensemble des géants que vous connaissez. Et donc, sur ce point-là, vous pouvez voir que toute la politique du gouvernement qui consiste à faire des partenariats avec les Américains, un peu avec les Chinois, un peu avec nous, mais tout en n'étant absolument pas naïf, permet aujourd'hui une vraie accélération de la tech en France et en Europe. Et pour Quant, oui, le gouvernement nous aide, le gouvernement fait avancer, et j'espère que nous aussi nous aidons en amenant une vraie solution quand vous avez besoin de souveraineté et de données.
Vous avez déclaré récemment « On veut être une alternative et notre stratégie, c'est de faire un vrai index et un vrai moteur de recherche européen ». Est-ce que l'avenir, c'est l'Europe pour Quant ?
L'avenir, c'est déjà l'Europe. Donc nous sommes France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suisse. L'avenir, c'est déjà l'Europe. Hein. L'avenir, nous, on a à peu près aujourd'hui plus de 34 pays, 22 langues. On fait déjà beaucoup en Europe. Mais oui, on doit faire ce moteur de recherche européen. Pourquoi ? Si vous regardez bien le monde, les Américains ont deux moteurs. Les Russes en ont un, les Japonais en ont un, les Chinois en ont un. Le CESNAM, la Tchéquie en a un, tout petit, mais c'est là. Et l'Europe n'a plus rien. Et le fait que l'Europe n'ait plus rien, ça veut dire aussi que l'Afrique va choisir entre Chine et US. Ça veut dire que l'Inde choisit entre Chine et US. Ça veut dire que l'Amérique latine choisit entre Chine et US. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je ne suis pas d'accord.
Et le RGPD, le règlement européen pour l'utilisation des données personnelles, justement, jouait pour vous d'une certaine façon ?
Il joue pour nous et on va même beaucoup plus loin que le RGPD dans notre cas de figure. Nous, on est là pour protéger réellement les données complètement. On est là aussi pour fournir de la data propre, totalement anonymisée, mais aussi pour faire de l'intelligence artificielle sur la data de santé, la data des villes, comment faire des économies, améliorer le travail global de nous tous. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est aujourd'hui. Et c'est important d'y être.
RFI dispose de beaucoup d'auditeurs sur le continent africain. Quels sont les projets de Quant en Afrique? Vous aviez notamment fait des choses en Côte d'Ivoire, je crois.
Oui, en Côte d'Ivoire, on a fait différents partenariats. On continue à avancer avec la Poste de Côte d'Ivoire, aussi au niveau du gouvernement, pour mettre en place déjà deux choses. Une technologie qui s'appelle B-Bound, qui permet de couvrir à 90% le territoire de Côte d'Ivoire en transformant la 2G en Internet. Ça permettra de livrer n'importe où, ça permettra d'avoir des informations, même si vous êtes à Kroubi. Ça permettra de travailler. On est partenaire du festival de Kroubi qui est en train de se jouer. Ça rentre dans notre idée de faire de la cartographie du nord, du sud, de l'est, de l'ouest des pays africains. Et puis, dans la foulée, nous créons Quant Academy qui permet de reverser toutes les informations de l'index d'un pays à son pays. Quels sont les journaux du pays? Quels sont les tweets du pays? Quels sont les sites faits dans le pays? Ça, c'est très important. Dans la foulée, on travaille avec différents partenaires type l'Inagora et d'autres pour créer aussi la possibilité de former les jeunes directement là-bas à l'intelligence artificielle et au métier de demain pour compléter les besoins que l'on peut avoir. Mais surtout, on est partenaire depuis 2-3 ans de Bonjour Idée et du Startup Africa avec... Pendant 2 ans, en tout cas, on a vu toutes les startups qui pouvaient être vues en Afrique et c'était absolument génial parce qu'ils font des choses vraiment de la tech for good. Là, c'en est de la vraie et en plus souvent vraiment, vraiment, vraiment très, très beau et très touchant à écouter parce qu'il y a des vraies histoires qui règlent de vrais problèmes en plein milieu de la brousse et c'est super important. Et donc, nous, notre idée, c'est d'amener les technologies européennes d'aujourd'hui, les technologies de demain, à disposition de l'Afrique et là où on peut mettre en place des serveurs, distribuer de la technologie, expliquer l'open source et apprendre tranquillement avec les Africains leurs
faire
idées.
Faire dans la co-construction, l'open source, c'est ça aussi démarche.
Bah, de toute façon, si on ne fait pas comme ça, ce n'est pas la peine. On est plus petit que tous les autres, on a moins d'argent que tout le monde. La seule différence, c'est qu'on est libre, on vous respecte, on vous donne de l'open source, on échange nos données, on travaille ensemble. Et si vous aimez, vous prenez et on accélère et ça fait de l'argent pour tout le monde. Si vous n'aimez pas, y a la concurrence, c'est facile, c'est un clic.
Une dernière question, est-ce qu'il vous arrive parfois, par mégarde, de faire une recherche sur Google? Et vous le trouvez comment, ce moteur de recherche?
Alors Google, ça fait très 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 longtemps que j'y suis pas retourné. La seule chose que je fais de temps en temps, c'est venir voir quand, soi-disant, il y aurait une amélioration. Ce que je trouve, c'est beaucoup d'améliorations à la publicité. Donc ils font beaucoup beaucoup de pubs, il y en a de plus en plus, c'est assez sympathique. À l'inverse, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat, nous, très fort aussi avec des Américains, parce qu'à la fin, vous allez croire que je suis anti-américain, donc je vais aller jusqu'au bout de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons un partenariat très fort qui est en train de se développer pour garantir le moteur souverain européen. Et ce partenariat, il est côté Microsoft pour qu'il nous donne plus de puissance pour pouvoir indexer l'Afrique demain matin. Donc, pas via leur technologie de moteur, juste par leur cloud pour avoir encore plus de place pour pouvoir mettre le reste des milliards de pages dont on a besoin, sachant que de notre côté, on va continuer à vous sécuriser, vous donner les réponses, avoir des dizaines de milliards de pages dans notre index. On va l'augmenter de 100 milliards et à ce moment-là, ça couvrira l'Afrique. Voilà, donc on peut faire des partenariats avec des géants, surtout quand les géants commencent à dire que privacy is a human right, la vie privée est un droit de l'homme, que l'AI doit être éthique et que l'open source est important. C'est marrant, je ne l'attendais pas chez Microsoft, bon ben pourquoi pas.
Mais il faut que ce soit du gagnant-gagnant.
C'est exactement ça.
Merci beaucoup Éric Léandry, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Quant et j'invite les auditeurs de RFI à essayer quant.com pour se faire une idée. Je rappelle que Quant s'écrit Q-W-A-N-T. À bientôt.
Voilà, merci à vous.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Et cette semaine, vous allez entendre une mondoblogueuse qui a fait un tour du web des moteurs de recherche alternatifs.
Devinez quoi ? J'ai trouvé la solution miracle pour vous permettre de planter des arbres tout en restant bien au chaud chez vous. Mieux, j'ai trouvé le truc qui va vous permettre de soutenir des actions pour la sauvegarde de l'environnement ou des projets sociaux, sans bouger le petit doigt et tout ça, gratuitement. Vous n'y croyez pas ? Voyez plutôt du côté d'Internet et des moteurs de recherche. Google Search est le plus utilisé sur la toile et c'est compréhensible. La vitesse de navigation est confortable, il déroule plein de résultats pour vos recherches. Que demande le peuple ? Mais le problème, c'est la publicité. Google collecte vos données personnelles pour cibler la publicité qu'il vous renvoie. Les recherches que vous faites polluent ainsi votre ordinateur pendant des semaines. J'ai donc commencé à chercher des solutions alternatives. Je n'ai pas trouvé de solution efficace contre la pub, mais j'ai trouvé des moteurs de recherche innovants. Ils reversent une partie des bénéfices engendrés par la publicité dans des actions pour l'environnement ou dans des projets sociaux. Avec Ecosia, par exemple, 80% des revenus de la publicité sont reversés à des programmes de reforestation. Avec 3 programmes de plantation, Ecosia participe à la reforestation du Burkina Faso, du Pérou et aussi de Madagascar. Sympa, non ? Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de changer de page d'accueil. Lilo fonctionne sur le même principe. Chaque recherche que vous faites sur le moteur de recherche Lilo permet de financer des dons pour des projets caritatifs, associatifs, humanitaires que vous choisissez. En plus, Lilo protège votre vie privée en désactivant le tracking publicitaire et il ne collecte pas vos données lors de vos recherches. Ce ne sont pas les seuls moteurs de recherche solidaires ou engagés qui existent, il y en a beaucoup d'autres. Franchement, il y en a pour tous les goûts. À vous de voir quel projet vous plaît le plus. Faire en sorte que les revenus de la pub soient alloués à des projets réels plutôt que rien ne se passe, ben ça dépend de vous. Alors informez-vous, parce qu'il faut changer ses habitudes pour pouvoir changer le monde.
C'était Arva Fagel Abbas du blog Choups Raconte. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, à la technique Bertrand Éclair et Marc Fichet. Au micro, Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.